Les podcasts d'AFDS.TV. Les suppléments d'Aux Frontières des Séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Trivia Sarah Sepulcre.
On parle souvent des séries qui sont adaptées au grand écran et qui sont toujours des grandes idées, qui donnent des grands films. Je pense à Sex and the City 1, 2 et 82. Et on parle moins des histoires qui font le chemin inverse, c'est-à-dire qui passent du film à la série. Et pourtant, il y en a, et peut-être un peu plus que ce qu'on croit aujourd'hui. Alexandre Marlier, tu vas nous en parler sur base de quoi ? De l'actualité autour de 12 Monkeys, principalement ?
Oui, puisque 12 Monkeys est arrivé il n'y a pas très longtemps sur Sci-Fi, et c'est pas la seule série qui est adaptée d'un film. On va justement en parler juste après.
Alors Cindy, tu es là avec nous pour en parler aujourd'hui. J'espère que toi, tu l'as vu, le 12 Monkeys, parce que moi, pas, hein, donc j'ai trop paumé.
Ben non, moi non plus. Je suppose qu'il y a peut'être 12 singes, mais je ne sais pas.
C'est pas grave, parce que Cindy, elle a vu Fargo, donc ça va bien nous aider, par contre.
Ah, donc voilà au moins déjà deux titres de séries qui sont adaptés de films, si je suis bien.
Tout à fait. Rapide rappel, c'est pas la première fois qu'on vous parle de films adaptés de séries ou de séries adaptées de films. Il y a une chronique série cinéma avec Tillman qui en parle très bien dans l'émission. On va peut-être revenir un petit peu sur la base, c'est pas tout à fait nouveau. On pourrait croire que c'est quelque chose qui date d'hier ou du mois passé ou de l'année passée. Mais non, en fait, il y a très très longtemps que ça existe, des films qui deviennent des séries. Souvenez-vous, MASH, le film de Robert Altman en 1970. Deviendra la success story qu'on connaît sur CBS en 1972 et durera jusqu'en 1983 avec, je pense me souvenir, que le final de la série a été l'une des plus grosses audiences jamais réalisées par une chaîne aux États-Unis. Donc voilà, l'histoire était déjà là. On peut se souvenir aussi, c'est peut-être un peu plus anecdotique, de L'Âge de Cristal aussi, Logan's Run, qui est devenu, fin des années 70, une série qui n'a duré que 14 épisodes, parce que la production n'a probablement pas suivi non plus l'histoire originale du film. Peut-être l'histoire ne se portait pas nécessairement à devenir une série régulière.
Et non pas Piège de Cristal, comme on pourrait le croire avec Bruce Willis.
Oui, non, ça n'a rien à voir. Hein. Je parle bien ici de l'histoire de ces jeunes qui, à l'aube de leur 30e anniversaire, doivent passer dans le carrousel et mourir parce que la société a décidé que on devait mourir à cet âge-là et qu'on devait profiter de la vie juste avant. Revenons donc à des choses un peu plus récentes. Souvenons-nous de Buffy contre les vampires qui a débuté avec un film. Et oui, si vous êtes fidèle à l'émission, vous le savez. Si pas, eh bien, vous devriez savoir que Buffy contre les vampires a d'abord été Bichette la Terreur, un film de 1992 avec Luc Perry, oui, le Dylan de Beverly Hills, et de Christy Swanson.
Un film largement oubliable. Hein.
Oui, parce que franchement, c'était plus une blague qu'autre chose. C'était vraiment très mauvais, malgré le fait que ce soit quand même Josh Whedon qui avait produit et écrit ce film. Et finalement, en 97, eh bien, ce film très mauvais a quand même donné le succès de critique et public qu'on connaît de Buffy contre les vampires.
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on connaît moins les œuvres qui ont fait ce chemin-là, et non pas l'inverse. C'est que finalement, parmi les films dont les séries sont adaptées, il n'y a pas toujours que des grandes œuvres non plus. On se rend bien compte que finalement, raconter un film, raconter une série, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, ça marche pas bien dans l'autre sens non plus. Et que ben, finalement, on a oublié que ces séries sont tirées d'un film, peut-être.
Oui, ou bien parce que simplement, on a oublié ces séries parce que ce sont des séries plus mineures, ou bien parce que ce sont aussi des séries de genre. On peut citer Clueless, par exemple, qui était tiré d'un film, qui était une série pour les adolescentes. Highlander, qui est par après devenu deux séries différentes, une série avec un homme et puis une série avec une femme aussi.
Aïe, aïe, aïe.
On a eu Terminator, les chroniques de Sarah Connor, qui est aussi une adaptation des films de Terminator, qui était un peu bizarre comme série, qui était pas très très bonne. On se souviendra aussi des aventures d'un jeune Indiana Jones, qui était une adaptation de ce fameux personnage joué par Harrison Ford. Est-ce que vous saviez aussi que Dirty Dancing avait donné lieu à une série?
Non.
Eh bien maintenant, vous le savez, une très mauvaise série qui n'a duré qu'une demi-saison en 1988 sur CBS.
Oh là là.
On peut se souvenir aussi de films qui n'étaient pas terribles et qui ont donné une série qui était bien meilleure. On peut citer Stargate SG-1, qui était tiré de Stargate, La Porte des Étoiles, qui était quand même pas un film qui cassait trois pattes à Donald. C'était gentillet, mais c'était quand même pas non plus le film du siècle. Et qui a quand même réussi à donner une saga de 10 saisons plus 3 spin-offs, ce qui est quand même plutôt pas mal.
Et ça, c'est un bel exemple que tu donnes parce que je trouve que, par définition, Stargate, c'est un film qui marchait. Bon, ça marchait, quoi. C'était un film divertissant.
Vite vu, vite oublié.
Voilà, mais divertissant. Enfin, faisait son office de blockbuster de l'époque. Et puis, finalement, en fait, la série a donné une dimension qui était complètement différente à cette histoire. Et en fait, on se rendait compte que cette histoire était porteuse et qu'elle était bien mieux servie par une série, par un film. Donc, c'est aussi cette différence de médias et la longueur que la série peut apporter.
Et porteuse au point de pouvoir produire 10 saisons, plus 3 autres séries, dont une animée, dont une de 5 saisons, la deuxième qui a moins bien marché avec 2 saisons. Tout comme Star Trek, je pense que c'est une série, une franchise qui risque un jour de revoir le jour par la création d'un nouveau spin-off de cette série. Pourquoi pas d'ici quelques années, une fois que la franchise aura repris un peu son souffle.
Avec les exemples que tu as cités, j'ai l'impression que parfois on passe d'un film à une série, mais pas spécialement pour le même public, parce qu'on est parfois plus dans la même génération, on va le sortir 10, 20 ans plus tard, et donc on va pas toucher les mêmes personnes.
Je pense qu'il y a deux buts, personnellement. Il y a le but qu'on vient d'évoquer, celui de développer un univers qui était probablement trop mis dans un canevas, dans un film, et pouvoir en faire quelque chose de quasiment infini, comme pour Stargate. Et puis à côté, Stargate n'était pas nécessairement non plus un blockbuster qui avait fait des centaines de millions d'entrées, donc on peut pas dire qu'on va taper sur la notoriété du film pour en faire une série à succès. À côté, il y a aussi cette manière de voir. Quand on fait une série basée sur Dirty Dancing, c'est clairement qu'on veut surfer sur la popularité d'un film qui a touché toute une génération. Quand on fait une série sur Terminator, c'est clairement qu'on veut tabler sur une marque forte qui risque d'amener un public, même si c'est pas le public qui, au départ, est allé voir les films sur le grand écran. On peut prendre l'exemple des aventures d'un jeune Indiana Jones. Quand la série a été créée, c'était pas du tout pour le public qui était venu en salle, mais clairement hein, pour un public plus adolescent, avec un but très éducatif derrière, comme toutes les séries en général de Steven Spielberg. Il y a un côté éducatif derrière qui est la plupart du temps pompeux. C'était le cas aussi d'un jeune Indiana Jones qui était pas une série franchement très amusante et ni très agréable à regarder, même si elle avait quelques réussites, c'était très éducatif. Mais du coup, ça n'avait strictement ou quasiment rien à voir avec les aventures d'Indiana Jones par après.
Et puis il y a aussi la façon dont on présente les choses, comme tu disais, c'est vrai que là on l'a pas présenté de la même manière. C'est comme aussi un peu les Superman qui ont été en film et puis qui ont été déclinés en plusieurs séries. Il y a eu Lois et Clark, il y a eu Smallville... C'est la preuve qu'à chaque fois, on va rechercher un public différent, ou pas spécialement différent, mais dans une génération différente, et on va le traiter d'une certaine façon pour toucher ce public.
Et avec le même terreau de base, on peut faire des choses très différentes. Quand on prend le film Nikita, et qu'en 97, une série canadienne qui s'appelle La Femme Nikita reprend l'histoire de base, c'est très différent de ce que The CW a fait en 2010 avec Maggie Q. Ce sont deux séries totalement différentes, et qui pourtant ont une base commune, qui est le film de Luc Besson, Nikita.
Est-ce que la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a quand même des gros hits qui sont adaptés. Je pense à Fargo, je pense à L'Armée des Douze Singes.
Oui, tout à fait. Depuis quelques années, on a quand même quelques films, des gros blockbusters qu'on n'aurait pas pu attendre en série, qui finalement arrivent sur le grand écran. On peut citer Fargo, je crois que Cindy, tu pourras nous en parler un peu plus, mais c'est une excellente relecture du mythique film des frères Coen.
C'est une série qui s'est basée sur le film des frères Coen et qui aussi, les frères Coen sont d'ailleurs un peu dans la production et c'était la raison pour laquelle ils ont réussi à en faire quelque chose vraiment de qualité. On a exactement le même esprit que dans le film. Pour moi, c'est une réelle réussite, comme quoi on peut parfois faire des choses de qualité en transformant un film en série.
Une autre très bonne surprise actuelle, c'est Sleepy Hollow, qui est une adaptation de la nouvelle originelle pour la Fox, qui n'est pas officiellement une adaptation du film de Tim Burton, mais qui en reprend certains codes. Les met à notre époque, à l'époque actuelle, et c'est plutôt une bonne réussite. Teen Wolf aussi dans son genre pour MTV, qui est une assez bonne adaptation. Ça dépend un peu des saisons. Il y a des saisons qui sont très bonnes, des saisons qui sont moins réussies, mais qui sont aussi une adaptation d'un film des années 80. Je reste personnellement plus circonspect concernant Bates Motel, qui ne tient que par les premiers ou derniers épisodes de chaque saison, le reste étant à mon avis du remplissage. Et puis il y a cette fameuse Armée des Douze Singes qui arrive prochainement sur nos écrans et qui a déjà été diffusée sur les écrans américains et qui sera un succès ou pas.
Au final, j'ai l'impression qu'il y a plus de séries qui proviennent de films que l'inverse.
En fait, j'ai l'impression que ça n'est qu'une impression, justement. Le fait est que quand tu as une production qui te dit dès le départ « Je vais faire une série sur Ghost, je vais faire une série sur Dirty Dancing, je vais faire une série sur L'Armée des Douze Singes », forcément, les gens qui ont aimé le film de base vont s'intéresser à la chose. Peut-être que la série va passer le cap des pilotes ou peut-être qu'elle ne le passera pas, mais du coup, l'information va passer plus vite qu'une série dont le scénario se base entre guillemets sur rien de connu. Et donc forcément, une série qui sera adaptée d'un film, qu'elle voit le jour ou pas, aura plus de publicité autour d'elle, puisque les fans du film vont s'intéresser au fait qu'on va faire cette série. Donc je ne sais pas s'il y a une recrudescence à ce niveau-là. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Il y en a quelques-unes qui sortent. Peut-être parce que les scénaristes aussi manquent peut-être de matériaux ou d'imagination actuellement. Et que oui, certains films mériteraient d'être adaptés, tout comme Stargate qui est un très bon exemple. Mais je ne pense pas qu'il y ait une telle grande recrudescence que ça d'adaptation de films vers le petit écran.
Et en tout cas, on attendra une prochaine émission pour savoir si 12 Monkeys vaut la peine ou pas. En tout cas, c'est sans Bruce Willis.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.